Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la nouvelle saison de JT Sport, le podcast étudiant qui vous récapitule les actualités sportives de la semaine. Au sommaire du football, pour débuter cette émission avec la performance historique du TFC face à Liverpool ce jeudi, nous reviendrons ensuite avec Bastien sur les 5 actus marquantes de cette semaine. On parlera après avec Thomas de l'émergence des sports de combat et plus particulièrement de la MMA en France depuis son autorisation en 2020. Et notre débat cette semaine, Joe Wilfried Tsonga serait-il le sélectionneur idéal pour l'équipe de France de tennis à la Coupe Davis? Pour finir, j'espère que vous avez bien révisé, puisque je vous fais passer un petit quiz afin de vérifier vos connaissances sportives.
C'est un génie! Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France! La victoire de Pierre Garcia, il l'a fait!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir
tranquille. Axel, sur un malentendu, ça pouvait marcher et ça a marché. Après s'être incliné 5-1 sur la pelouse d'Anfield il y a 2 semaines, le TFC a battu Liverpool 3-2 jeudi soir.
Et oui PA, 4 jours après avoir perdu sur sa pelouse face au Havre 2-1, le TFC recevait Liverpool jeudi à l'occasion de la 4ème journée d'Europa League. En virage Brice, les Invaders ont annoncé la couleur avant la rencontre avec un super tifo en référence au bronzé et la mythique phrase de Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Avec cette rencontre, les joueurs du TFC avaient à cœur de se racheter après 5 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, et une 14e place de Ligue 1. De leur côté, les hommes de Jurgen Klopp pouvaient assurer leur billet pour la suite de la compétition en cas de victoire.
Et du côté des tribunes, c'était une ambiance des grands soirs, Lucas.
Le parvis se remplit très vite avant le match, tout comme le virage Brice qui donne de la voix très tôt. Le parkage en face, il est plein, mais très silencieux à l'image des ambiances en première ligue. Le stadium encourage ses protégés comme il se doit, direction nos places et on donne de la voix. Quand on aperçoit les compositions, on se dit « Ok, ça se joue, on peut faire un truc ». Sur un malentendu, ça peut marcher. Je réalise pas encore qu'on reçoit Liverpool, c'est vraiment une sensation très étrange. Mais on prend du recul, regardez où on était il y a 3 ans. C'est quand même une énorme surprise.
Pourtant, dès le début du match, les Toulousains ont failli être sanctionnés par la justesse technique des joueurs de Liverpool, Axel.
Effectivement, dès la 3ème minute de jeu, un coup franc tiré par Cody Gakpo est repris de la tête par Joe Gomez atterrit sur la barre transversale de Guillaume Rest. C'est la 14ème fois de la saison que les Violets sont sauvés par leur montant. Mais en cette soirée de novembre, les joueurs de Carles Martinez Novel semblent comme transcendés. On sent dès le coup d'envoi que ce match ne sera pas comme les autres et qu'il restera gravé dans les esprits toulousains, quel qu'en soit le résultat. À la 28ème minute de jeu, Nicolas Schmidt tente de trouver d'un superbe centre du droit son coéquipier Gabriel Soiseau, mais repris par le Chilien, le ballon passe à côté des cages de Kelleher. C'est le début des offensives violettes. 7 minutes plus tard, Aaron Donum, transcendé par l'enjeu du match, subtilise le ballon à Tsimikas pour se retrouver seul face au gardien de Liverpool. D'une superbe frappe du gauche, il réussit à crucifier Kelleher et à libérer le stadium tout entier.
Effectivement, à ce moment-là, le stade retient son souffle et finit par exploser de joie sur cette ouverture du score. Le volcan s'embrase, l'ivresse s'empare de tous. J'ai pris dans mes bras des personnes que je ne connaissais pas. C'est beau, c'est le football, c'est les émotions. Toulouse mène 1-0 à la pause et tout le stade se lève pour acclamer ses joueurs lors de leur retour au vestiaire.
Et au retour des vestiaires, c'est bien le TFC qui mène au score, Axel.
Exactement, et Jurgen Klopp décide de réagir vite. Ce sont 3 joueurs clés de cette équipe de Liverpool qui font leur entrée sur le terrain à la mi-temps, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Dominique Szoboszlai. Et pourtant, ce sont bien les Toulousains qui multiplient les offensives. Après une énorme occasion ratée de Gabriel Soiseau à la 46ème minute et un but de Dalinga refusé pour hors-jeu à la 50ème minute, les Toulousains doublent la mise à la 57ème minute après un énorme pressing et un centre parfait de Vincent Sierrault vers le buteur hollandais. Dalinga réussit un enchaînement de grande classe pour croiser sa frappe et inscrire le 2ème but toulousain.
Avec tous ces faits de jeu, j'imagine que ça devait être l'ascenseur émotionnel dans les gradins, Lucas.
C'est même plus que ça. Je réalise toujours pas ce qui s'est passé jeudi dernier. C'est un match fou. Les ratés de Soiseau, on en a l'habitude, c'est pas grave. On sait qu'il est pas attaquant. On continue de pousser jusqu'à l'explosion du stade, lorsque notamment Dalinga marque le 2-0 d'un magnifique tir croisé. Un nouveau champ s'élève du virage Brice pour Thaïs Dalinga, le nouveau Batave, goléador du TFC. Tout le stadium reprend comme un seul homme qui ne saute pas n'est pas toulousain. En virage, on se mettait à rêver d'un nouvel exploit sur la scène européenne, 30 ans après avoir éliminé le Naples de Maradona. Ici même, les légendes tombent. On y croit, c'est ce soir. Un virage surpeuplé va donner corps et âme pour pousser les violets vers la victoire.
On vous l'a dit, jeudi soir, les joueurs du TFC étaient de véritables guerriers, galvanisés, dans une autre dimension. Seulement 2 minutes après la réduction du score de Liverpool, les violets parviennent à inscrire le 3ème but de la rencontre après un magnifique mouvement collectif. Aaron Donum parvient à trouver magnifiquement Gabriel Soiseau côté gauche, qui à une touche de balle la met à Franck Magri, fraîchement entré en jeu, qui ouvre son compteur de but en compétition européenne. À la 88e minute de jeu pourtant, on aurait pu croire à un comeback de Liverpool après un rush exceptionnel de Diogo Jota qui se retrouve seul face à Guillaume Rest pour réduire le score. C'est donc sur le score de 3-2 que nous rentrons dans le temps additionnel.
Pour la troisième fois en chavire, la troisième fois rendez-vous contre Liverpool. C'est les frissons, les émotions, c'est le football qu'on aime. Le stadium pour encore plus fort, c'est la meilleure tribune du championnat. Un stadium des grands soirs, là, vous pouvez en être certain. Toulouse doit désormais tenir. Ça pousse fort, très très fort. Et quelle fut la déception et la frustration des supporters et de moi-même quand Liverpool égalise. Avant qu'on ne saute de joie après l'intervention de la vidéo, l'ascenseur émotionnel, l'explosion de joie au coup de sifflet final. C'est juste beau, c'est juste le football. Guillaume Rest qui vient chanter avec le capot des Invaders. C'est aussi beau. Donum qui fait un salto en rejoignant les vestiaires. Ça aussi c'est le football.
C'est l'heure de l'actualité en bref et cette semaine, c'est toi qui t'y colle, Bastien. Et cocorico, semaine réussie pour le sport français et notamment pour nos tennisman qui ont brillé ce week-end.
Inusable Adrian Manarino. À 35 ans, le français a décroché le 5e titre de sa carrière en remportant l'ATP 250 de Sofia en Bulgarie. En finale, le divin chauve est venu à bout de l'anglais Jack Draper en 3-7, 7-6, 2-6, 6-3. C'est le 3e titre de la saison pour Manarino après Newport et Astana. Il intègre le cercle fermé des vainqueurs de 3 titres après 35 ans, aux côtés de quelques noms qui ne vous paraîtront pas inconnus, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Succès aussi pour Hugo Humbert qui remporte son tournoi, celui de Metz. En finale, le Mosellan s'est défait en 2-7 du russe Alexander Shevchenko, 6-3, 6-3. C'est le 4e titre en professionnel pour celui qu'on surnomme le commandant. Avec ce sacre, Hugo Humbert intègre pour la première fois le top 20 mondial.
Un mot de voile et de la transat Jacques Vabre qui a rendu son verdict.
Ça y est, Armel Lecléache tient enfin son premier succès majeur dans la catégorie ultime. En compagnie de Sébastien Josse, le Breton a coupé en vainqueur la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre après un peu plus de 14 jours passés en mer. En tête presque tout le long de la course, l'équipage du Maxi Banque Populaire 11 a volé sur les flots, ne laissant aucune chance à leur dauphin, François Gabart et Tom Laperche.
Du patinage artistique à présent. On tient peut-être le digne successeur de Philippe Candeloro.
Il n'est pas encore connu du grand public, mais ça ne saurait tarder. Le français Alban Xiao Imfa a remporté ce week-end le Grand Prix de Chine, une semaine après sa victoire à Angers. Auteur d'une performance de haut vol, le patineur devance le double champion du monde de la discipline et améliore dans le même temps son record personnel.
C'est un bilan un peu plus contrasté pour l'équipe de France de trampoline.
Les championnats du monde de la discipline se tenaient ce week-end à Birmingham. Et comme tu l'as dit, c'est un bilan en dents de scie pour nos bleus. Les hommes sont sacrés champions du monde par équipe quand les femmes décrochent la médaille d'argent. Ça a été en revanche beaucoup plus compliqué en individuel où les Français n'ont pas obtenu la moindre breloque. Pas de très bon augure à 8 mois des Jeux où seules les épreuves individuelles seront disputées.
On termine avec une actualité régionale et du rugby. Le Stade toulousain reprend sa marche en avant après sa défaite à Pau.
Victoire certes, mais sans convaincre. Auteur de 6 essais mais fébrile en défense, les Toulousains s'imposent sur le score de 43-34 face à Perpignan. Une victoire au goût amer pour les joueurs d'Hugo Mola, qui laisse échapper le bonus offensif. L'attraction de cette rencontre, c'était surtout le retour en top 14 de plusieurs mondialistes, notamment Antoine Dupont, ovationné lors de son entrée sur la pelouse. Grâce à ce succès, le Stade Toulousain intègre le top 5 du championnat, avant son déplacement à Castres lors de la prochaine journée.
Partons tout de suite pour New York où avait lieu ce samedi soir l'UFC 295 Thomas et où un Français a brillé.
Absolument PA, ils n'ont pas encore la notoriété de Kylian Mbappé ou d'Antoine Dupont mais commencent à faire parler d'eux, voici Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot et Cyril Gann. Ce sont en France nos trois têtes d'affiche du MMA, Mixed Martial Arts en anglais, les arts martiaux mixtes. Samedi à New York, au Madison Square Garden, théâtre mythique des sports de combat et dans la ligue la plus prestigieuse de ce sport, l'UFC, Benoît Saint-Denis combattait Matt Fravola. Son adversaire, classé numéro 14 dans la catégorie, n'a pas pesé face à l'ancien membre des forces spéciales de l'armée de l'air française. Pour les 30 ans de l'organisation, le God of War, Dieu de la guerre comme il se surnomme, a terrassé son adversaire avec un high kick dévastateur qui le mit KO dès la première reprise. En pleine ascension et dans la catégorie la plus relevée de l'organisation, à côté d'ogres comme Islam Makhachev ou Charles Oliveira, Benoît Saint-Denis signe sa 6e victoire consécutive à l'UFC depuis ses débuts en octobre 2021. Monté dans le train, Benoît Saint-Denis, tant qu'il est encore temps, notre Français l'a annoncé, il veut devenir le premier champion français à l'UFC.
Et Benoît Saint-Denis n'est pas le seul à se rapprocher d'un titre à l'UFC.
Et non, puisque Manon Fiorot pourrait être la première française à avoir une ceinture à sa taille. Déjà première française à intégrer l'UFC et à remporter un combat, la niçoise est aujourd'hui numéro 3 dans sa catégorie. Avec 6 victoires en autant de combats au sein de l'organisation et son succès à l'UFC Paris en septembre face à Rose Namajunas, ancienne numéro 1 des poids mouches, Manon Fiorot a confirmé ses ambitions de championne.
Eh bien oui, puisque cette discipline est en plein essor en France.
C'est exact. Légalisé en France en janvier 2020, Paris a déjà accueilli le PFL Paris, où le Camerounais Cédric Doumbé, célèbre trash talker et ancien champion du monde de kickboxing, a combattu en octobre. Une victoire en 7 secondes après un high kick à la tête de son adversaire Jordan Zebo, un bruit assourdissant dans la salle, une atmosphère mémorable, des Marseillaises à gogo, bref, les chants ont confirmé l'engouement des Français pour ce sport. Ajoutez à cela deux événements planétaires, l'UFC Paris, en 2022 et 2023, les ambiances de folie à Bercy, du jamais vu en 3 décennies de combat, ont impressionné Dana White, le promoteur et PDG de l'UFC. Plusieurs de nos Français y ont brillé, Benoît Saint-Denis et Manon Fiorot, que vous connaissez bien désormais, mais aussi Cyril Gane. Le natif de La Roche-sur-Yon est la grande vitrine de ce sport dans l'Hexagone. Après 2 combats pour le titre, tous 2 perdus, il se peut que le Français ait une dernière chance, à 33 ans, d'être sacré champion. Toutes ces performances impressionnent et font de plus en plus d'adeptes, puisqu'aujourd'hui, on compte 1500 licenciés et 240 salles de MMA sur le territoire national.
Voilà donc pour l'éclosion du MMA en France, passons désormais au débat. Pourquoi pas moi ? Une petite phrase qui a fait trembler le tennis français. Une phrase dite par Joe Wilfried Tsonga qui se déclare officiellement candidat au poste de sélectionneur de Coupe Davis. Mais cette candidature est loin de faire l'unanimité. Paul, toi tu trouves que c'est une bonne idée ?
Je pense même que c'est une excellente idée. Pourquoi ? Déjà parce que Joe c'est l'un des meilleurs français depuis le début de l'ère Open. 18 titres en simple, dont 2 Masters 1000 à Bercy et Toronto, une finale de Grand Chelem en Australie en 2008, une finale du Masters en 2011, une 5e place mondiale et 260 semaines passées dans le top 10 entre 2008 et 2017. C'est simple, seul Noah a fait mieux. Évidemment, un bon joueur ne fait pas forcément un bon sélectionneur. On a pu le voir par le passé, et pas qu'en France, et un palmarès ne doit pas dicter des intérêts qui dépassent de loin le cadre individuel. Mais Joe, c'est aussi l'esprit Coupe Davis, le vrai. Vous savez, celui d'avant 2019 et la nouvelle formule de Gérard Piquet. Il est un des piliers de l'équipe de France victorieuse en 2017 face à la Belgique. Il sait gagner, l'a démontré, et doit désormais partager. C'est la suite logique, et ça fait partie de sa mission, pour le bien-être du tennis français.
Arthur, au contraire, tu n'es pas très emballé.
Joe Wilfried Tsonga, entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, ça sonne bien, mais pour moi, ça a toute la fausse bonne idée. Excellent joueur de tennis, l'expérience des grands moments, ça tu l'as dit, mais en même temps, en tant que coach, c'est quoi son expérience ? Je dirais surtout que grand joueur n'est pas égal à grand coach. Et comme tu l'as dit, son palmarès ne doit absolument pas entrer en ligne de compte. À l'heure actuelle, il me semble plus en capacité d'être un mentor plutôt qu'un entraîneur. D'ailleurs, ça peut être un super chemin à prendre. Commencer comme ça, à la Boris Becker, Ivasinevic ou Lendl, et ensuite entrer sur du coaching plus pur et dur. Et le principal problème à mes yeux, c'est justement ce manque d'expérience. Joe, c'est plus le bon copain. Il le dit lui-même, il s'entend bien avec tout le monde. Mais ça veut pas dire qu'il va savoir ménager les égos. Faire le pont entre les générations, c'est pas si simple que ça. Ça se résume pas à bien s'entendre avec les gens. D'autant qu'il faut aussi gérer les relations avec les instances dirigeantes. Et on sait qu'avec la FFT, ça a aussi pu être compliqué par moments. Est-ce qu'il a vraiment les épaules ? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il réalise vraiment ce que ça implique ? Je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, je crois pas qu'il poursuivrait le poste. Avaler des couleuvres, c'est pas fait pour tout le monde.
Paul, quelque chose à ajouter ?
Alors j'entends et je te vois encore venir, Arthur, sur ces nombreuses et différentes casquettes qui pourraient le dévier de sa fonction de sélectionneur. Comme ça a d'ailleurs pu être le cas pour Sébastien Grosjean, ancien sélectionneur et écarté il y a peu de temps et épinglé par le comité d'éthique, justement pour neutraliser les conflits d'intérêts potentiels. Le Manceau a d'ores et déjà répondu que si sa candidature était retenue, il se consacrerait pleinement à ses nouvelles responsabilités et qu'il ne se positionnerait ni en tant que patron de tournoi, ni en tant qu'agent. Alors attention quand même, et je vais te rejoindre là-dessus, coacher ses potes, c'est pas toujours simple et il risque pourtant d'y être confronté, que ce soit avec Gaël Monfils ou Richard Gasquet. Est-ce qu'il a assez de recul pour le faire ? C'est justement toute la question. À part ça, Joe, ça a toujours été le partage et c'est pour moi la bonne personne pour transmettre toute son expérience au Arthur Fils, Lucas Vanhaché et autres, qui doivent à leur tour porter le tennis français. Et il a cet ADN de l'équipe de France. On n'oublie pas qu'il est médaillé d'argent olympique avec Mikhaïl Yodra en double en 2012.
Un dernier argument a étayé, Arthur ?
Bien sûr qu'il connaît le milieu du tennis, mais là on est sur un poste spécifique qui demande une certaine préparation. La connaissance du milieu tennistique ne rend pas les postes interchangeables pour autant. N'importe quel joueur n'est pas destiné à devenir un bon directeur de tournoi ou un responsable de formation à la FFT. N'importe qui ne peut pas être coach, n'importe qui ne peut pas être entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, peu importe son passif dans d'autres rôles. Je pense pas qu'il ait laissé suffisamment de temps passer, qu'il ait pris assez de recul. Rien que sa prise de parole, je comprends bien sûr qu'il souhaite se positionner pour un poste qui lui plaît peut-être depuis longtemps, mais qu'est-ce que ça dit de sa considération pour ce poste? Il prend peut-être ça un peu à la légère. On sait tous qu'avec le nouveau format, la Coupe Davis c'est plus que c'était, mais quand même, ça mérite beaucoup de sérieux. Et avec cette nouvelle formule, pas sûr que son expérience lui soit si bénéfique que ça, tellement c'est différent aujourd'hui. Tsonga coach de l'équipe de France pour une saison, un échec et puis s'en va, c'est pas ce que je souhaite. D'autant qu'en plus, ça peut nuire à la super image qu'il s'est construite. Je préfère qu'il revienne dans quelques années, mieux préparé pour en faire une véritable réussite.
Merci messieurs pour ce débat enflammé, on espère que celui qui en sortira vainqueur, c'est le tennis français. Place désormais au quiz.
Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur? Qui est meilleur?
C'est le meilleur.
Ah, si il est un peu répond parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois, il nous gonfle.
Place maintenant au quiz, messieurs, avec deux équipes qui se retrouvent face à moi. À droite, Paulo Gallardo et Lucas Rodriguez.
Bonjour, messieurs.
À ma gauche, Axel Ourteillan et Bastien Larieux.
Ouais, ouais, ouais.
Là.
Je veux que ce quiz se déroule dans le plus grand des fair play, messieurs. Cependant, il risque d'être enflammé. Première question, tennis. Quel Français s'est offert un sacre dans sa ville natale ce samedi?
Hugo Humbert.
Et c'est une bonne réponse à ma gauche de la part de Bastien Larieux et d'Axel Ourteillan qui obtiennent le premier point de ce débat. C'est bien Hugo Humbert qui s'est imposé dans sa ville natale de Metz.
Ramos.
Deuxième question, vous êtes prêts?
Oui.
Dans quelle station devraient se dérouler les descentes hommes de la deuxième étape de la Coupe du Monde de ski alpin?
Courchevel.
Toutes les deux annulées.
Zermatt, Tchervinia.
Et c'est une bonne réponse à ma gauche donnée par Paul Gallardo.
Il est bon, il est
un
bon.
Point, effectivement, cela devait se dérouler dans les deux stations conjointes de Zermatt et de Cervinia. Troisième question maintenant. Attention, concentration. Benoît Saint-Denis a mis KO Matt Frévola. En combien de rounds et avec quel type de coup? Quel type de coup maintenant? Bon point à ma droite.
À la tête.
Et c'est une bonne réponse à ma droite donnée par Lucas Rodriguez pour l'équipe Paulo Gallardo. Lucas Rodriguez, un point de plus. 2-1. Quatrième question. Qui a inscrit le but salvateur qui a offert la première victoire de la saison à l'Olympique Lyonnais?
O'Briens.
Oui.
Et c'est bien joué, yes. C'est encore une bonne réponse à ma droite de la part de Lucas Rodriguez qui enchaîne désormais les bonnes réponses. 3 buts à 1 pour cette équipe à ma droite. Ultime question. Attention, insolite. Quel ancien footballeur français a donné un concert dans sa ville natale de Marseille jeudi
Barthez.
Et vendredi?
Je suis pas bon.
Indice. Il a joué à Manchester United.
Patrice Evra.
Eric Cantona.
Et c'est une bonne réponse à ma droite, encore une fois, trois fois d'affilée. C'est la manita pour Lucas Rodriguez qui permet à son équipe de remporter la victoire 4 à 1 dans ce quiz endiablé. Merci messieurs pour ce quiz. Merci à toutes et à tous surtout de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de JT Sport. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux.